l'histoire.
Franck Ferrand.
Il faut vivre un temps dans le nord de l'Europe pour saisir toutes les traces, tous les vestiges qu'a laissé la grande richesse de cette région qui a été un véritable carrefour commercial et financier. Il y avait une efflorescence du commerce aux alentours du 13e, 14e, 15e siècle. On est à l'époque de la Ligue hanséatique, bien entendu. Les échanges entre la Flandre, la Hollande et puis d'une façon plus générale toutes ces régions jusqu'à la Scandinavie sont très importants. N'oubliez pas les foires également qui témoignent de cette période très prospère. Eh bien, à la même période, l'Europe du Nord connaît un bouleversement, on pourrait presque parler d'un choc culturel, artistique. De nombreux artistes vont inventer une nouvelle manière de peindre et de nouvelles techniques. Et celui qu'on cite toujours, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, ou pour être plus exact, celui qu'on a l'impression de connaître le moins mal, c'est Jan van Eyck, auquel on attribue notamment l'invention de la peinture à l'huile. Quand je dis l'invention, d'ailleurs, le terme perfectionnement serait peut-être plus juste. Cette révolution de la peinture à l'huile va totalement modifier le rapport à l'image. Nous n'allons pas aujourd'hui faire une émission d'histoire de l'art, mais on ne peut pas évoquer Jan van Eyck sans parler, évidemment, de ce bouleversement extraordinaire. On est au tournant du gothique flamboyant et de la Renaissance qui déjà commence à s'annoncer. De nombreux artistes italiens de la fin du XVe siècle vont s'inspirer d'œuvres flamandes. La Flandre, elle aussi, s'inspirera beaucoup de l'Italie. D'un côté, la ligne, nous disait autrefois René Huyghe, de l'autre côté, l'atmosphère. Ce qui est extraordinaire avec des peintres comme les peintres de la cour de Bourgogne, qui pour certains d'ailleurs ont été formés à la grande école de l'enluminure, c'est qu'ils arrivent à synthétiser les deux. Et c'est ce que fait Jan van Eyck, bien entendu, avec cette peinture d'une richesse, d'un détail, la fine schilderij, vous savez, cette peinture extraordinairement fine. On a presque l'impression, tant le travail sur les matières notamment est développé, on a presque l'impression qu'on pourrait toucher les objets qui sont donnés à voir au public. On pourrait presque dire d'ailleurs qu'ils sont donnés à voir pour la première fois. La Flandre, la Hollande sont très puissantes, vous l'avez compris. Les gouvernements nourrissent des ambitions à l'échelle de l'Europe entière. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir ce peintre van Eyck devenir une sorte de diplomate. Nous parlions l'autre jour de Pierre-Paul Rubens, qui a été un véritable peintre ambassadeur. Eh bien, deux siècles auparavant, van Eyck avait déjà accompli ce type de mission diplomatique. Et pour cause, les grands peintres, et notamment les portraitistes, se faisaient très rares. Ils étaient des personnalités qui abordaient évidemment à l'intimité des souverains. Les souverains en faisaient souvent leurs confidents et d'un souverain à l'autre, on se prêtait non seulement les services d'un peintre, mais parfois le truchement d'un diplomate et c'est le même homme qui assumait les deux missions. On dispose assez peu de sources, disons-le, sur le peintre van Eyck. On sait qu'il est originaire des Flandres, mais sa naissance reste un mystère. On la situe en gros entre 1380 et 1390, dans un endroit qui n'a pas été parfaitement identifié. Il est peut-être né à Maaseik, qui est devenu Eyck-sur-Meuse, à une trentaine de kilomètres de Maastricht, entre les frontières des deux provinces, des Pays-Bas et de la principauté de Liège. C'est une supposition, pour tout vous dire. Ce qui est certain, c'est qu'il naît dans des territoires soumis à l'autorité du prince évêque de Liège. Jean III de Bavière est le premier des princes évêques que va rencontrer réellement van Eyck. Il sera son protecteur et son premier commanditaire. On ne peut pas parler de Jan van Eyck sans évoquer son frère. Je devrais même dire ses deux frères. Alors il y en a un, Lambert le cadet, dont on ne sait quasiment rien, qui n'a pas une importance folle. Mais en revanche, l'aîné, Hubert, qui lui aussi était artiste, qui était même peut-être d'abord artiste, a joué un rôle déterminant dans la carrière de Jan. Dans son autoportrait de van Eyck, Elisabeth Bellorget affirme qu'à 12 ans, le peintre part à Tournai, enfin le futur peintre, part faire son apprentissage chez son frère Hubert. Nous arrivâmes enfin à Tournai, écrit-elle. De loin dans la plaine, j'aperçus sa belle enceinte jalonnée de nombreuses tours recouvertes de tuiles et d'ardoises. Nous franchîmes la porte Marvis dans le tumulte des chariots. La procession et la foire de septembre attiraient les courtiers du Brabant, de Flandre et d'Artois. Dans l'embouteillage, j'entendis parler allemand. Les Oesterling et ceux de la Hanse teutonique y venaient aussi conclure de juteux accords. Il faut imaginer, bien entendu, ce bouillonnement extraordinaire de la Flandre de l'époque. Jan van Eyck se destine à un art qui est très très en vogue dans les cours de l'époque, c'est l'enluminure. On ne sait cependant, j'allais dire, pas grand-chose. Disons-le, on ne sait rien sur son activité pendant cette période. On suppose qu'il est passé par Liège et que son talent a donc été repéré par Jean de Bavière. Van Eyck est employé à La Haye. Il devient peintre de la cour, valet de chambre à partir de 1422. À cette époque, il reçoit plusieurs commandes dans l'ombre de son frère Hubert. Il possède un atelier, qui dit atelier dit un certain nombre d'élèves, toute une structure, bien entendu, tout un groupe. Il décore notamment le palais de Jean de Bavière, le palais du Binnenhof, qui est la résidence des comtes de Hollande. On le voit également travailler avec son frère sur les enluminures baptisées les heures de Milan-Turin, qui sont issus de la fragmentation des très belles heures de Notre-Dame du duc Jean de Berry. Vous savez, les heures de ce qu'on possède actuellement au musée Condé de Chantilly n'est qu'une partie de l'incroyable richesse de la collection d'enluminures de Jean de Berry. Le 6 janvier 1425, notre Jean de Bavière vient à mourir. Van Eyck perd donc son protecteur. C'est fondamental dans l'organisation de la vie d'un artiste de l'époque. Il se retrouve seul et le voilà parti pour Bruges. Alors à notre époque, ce serait vraiment une simple formalité. Hein. Vous imaginez, le voyage est tout simple. Sauf qu'en 1425, un déplacement de cet ordre est toute une aventure. Il faut imaginer l'état des routes de l'époque, les lieux de repos et de sustentation qui sont vraiment peu nombreux, très aléatoires, les montures, les harnachements, la fréquentation de ces routes également, avec les mauvaises rencontres qu'on peut y faire. Bref, voyager même sur de courte distance est une véritable aventure. Il faut constamment avoir ça à l'esprit si l'on veut comprendre justement l'incroyable tempérament d'un homme comme Van Eyck qui va voyager pendant toute sa vie. C'est tout simplement extraordinaire. Il est émerveillé, disons-le, par la richesse de Bruges, qui, du fait de sa position stratégique pour les échanges commerciaux entre la mer Baltique et le reste de l'Europe, est la première place européenne de l'époque. C'est une cité tout simplement stupéfiante. Dans la direction de Bruxelles à Ostende, la terre flamande de Gand de Bruges est une terre grasse, faiblement ondulée, avec des gens positifs et massifs, écrivait Raphaël et Brignetti. Le soleil peint des teintes vives en longs rubans écarlates brun, vert, turquoise. La peinture de Van Eyck est faite de ses couleurs et de ses figures.
De la série télé Marco Polo composée par Ennio Morricone à l'instant sur Europe 1. Et nous continuons avec vous, Franck Ferrand, à découvrir les voyages du peintre Van Eyck.
Alors à Bruges, Van Eyck va solliciter une audience au palais du duc de Bourgogne en personne, Philippe III, dit Philippe le Bon, qui est comte de Flandre, d'Artois, de Bourgogne. On est à l'époque du grand-duché d'Occident, bien entendu. Notre Philippe en question est le fils de Jean sans peur, c'est le père du futur Charles le Téméraire. On peut dire qu'il règne sur un véritable royaume, sur une très grande puissance. Ça va du comté de Bourgogne et de ses places fortes de Dole et de Montbéliard, dominées par les montagnes du Jura, jusqu'à la mer du Nord, dans une sorte de très grand croissant, d'une très grande richesse. Philippe de Bourgogne possède des résidences à Gand, à Bruges, bien entendu, hein, c'est le Prinsenhof, c'est la résidence des ducs de Bourgogne, mais aussi à Bruxelles, Hesdin, Lille, Dijon, etc. Vanneck entre à son service à la mi-mai 1425 comme peintre et valet de chambre. Alors, valet de chambre, c'est une fonction, c'est un office de cour, bien entendu, et ça permet de rémunérer le peintre à l'époque. Il ne faut pas imaginer qu'on demande à Vanneck d'aller faire le ménage, bien entendu. Il va suivre le duc dans différents de ses déplacements. Il s'installe notamment à l'hôtel de la Salle à Lille. Et alors là, on est dans un autre type de déplacement. Nous en parlerons tout à l'heure avec mon invité. Ce sont les déplacements de cour. Ce sont des voyages qui sont plus structurés et un peu moins inconfortables que les autres pour des raisons que nous allons évoquer. Un événement vient perturber les premiers succès de Vanneck à la toute splendide cour de Bourgogne. C'est la mort de son frère Hubert en 1426. Yann se retrouve avec l'héritage de tout un atelier et notamment avec une œuvre énorme en cour, l'adoration de l'agneau mystique, vous savez, l'agneau de Gand. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça me donne envie de faire une émission car cette œuvre est passionnante à bien des égards et, entre parenthèses, ça c'est une petite anecdote, c'est l'œuvre d'art qui a été le plus souvent volée dans toute l'histoire et ça m'amuserait de raconter ça un de ces jours. Prenons date. Vanneck ignore encore qu'il va devoir patienter pour entreprendre ce grand œuvre. Il est en effet convoqué par le conseiller du duc de Bourgogne qui va l'envoyer effectuer un certain nombre de missions diplomatiques. Toujours cette idée d'un peintre ambassadeur, encore une fois le peintre confident des grands auquel on va confier un certain nombre de missions de très grande responsabilité. Certains affirment que Vanneck a été envoyé pour une première mission secrète en 1426 en Terre Sainte. Alors là, on est dans un immense voyage. Je parlais d'aventure tout à l'heure entre Bruges et Liège, mais vous imaginez, pour aller en Terre Sainte, rien n'est moins sûr, pour tout vous dire. On n'a aucune preuve historique de cette première mission. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'en juillet-août 1425, on a des traces de Vanneck à Valence. Donc il est quand même descendu à la cour d'Aragon. Il travaille pour la princesse Isabelle d'Urgel, qui est la nièce d'Alphonse d'Aragon. Et il va d'ailleurs, tout en menant des missions diplomatiques, il réalise des portraits, il réalise des décors, etc. Il exerce son métier de peintre. Il va préparer le mariage entre Isabelle d'Urgel et le duc de Bourgogne, sauf que ça, c'est une négociation qui tournera court. Vanneck n'aboutira pas et ce mariage ne va pas se faire. Alors, il quitte la cour d'Aragon et de retour en Flandre. Et là, on lui confie une seconde mission en 1428. Et cette fois, destination le Portugal. Ce qui veut dire que le voyage va être maritime. C'est intéressant cette vie de Vanneck parce que ça couvre à peu près tous les types de voyages qu'on pouvait effectuer au Moyen-Âge. Le voilà parti avec toute une délégation sous la direction de Jean de Roubaix qui est premier chambellan du duc de Bourgogne. La mission cette fois va être nettement plus longue. Elle commence le 19 octobre 1428. Elle ne se terminera que bien plus tard à Noël 1429. L'objectif, c'est encore de trouver une épouse pour le duc, en l'occurrence la princesse Isabelle de Portugal, qui est la fille du roi Jean Ier de Portugal. Pour Vanneck, la traversée est périlleuse. On ne sait pas tout, bien entendu. Et je m'en remets à la romancière pour nous décrire la tempête qui nous fit cortège, dit-elle en parlant au nom même de Vanneck jusqu'aux côtes anglaises. Londres me remit d'aplomb pour quelques heures. J'errais dans Londres grouillante et noire. La Tamise roulait des eaux festonnées d'écume glauque. Nous longeâmes les côtes du pays du roi Arthur dans la furie des vents. Je gisais nauséeux, incapable du moindre mouvement. Une fois passée la Vendée, ce fut l'accalmie. Bayonne, les côtes portugaises, Cascais, en riant et buvant, nous vîmes enfin Lisbonne le 18 décembre, noyée dans une brume tiède. Et cette fois, la mission va réussir. Le mariage entre Philippe III de Bourgogne et Isabelle de Portugal sera célébré en 1430 à L'Écluse, dans la province de Zélande. Les festivités se déroulent à Bruges et je vous laisse imaginer qui en est le décorateur en chef.
Au cœur de l'histoire, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au peintre Vanneck et à ses voyages.
Au cours de son voyage de retour, Van Eyck va passer par Compostelle, Valladolid, où il rencontre le roi de Castille, et même il va passer par Grenade, où il est reçu par le sultan Mohammed VIII. L'Andalousie est toujours arabe à l'époque, bien entendu. Vous imaginez à chaque fois le dépaysement. Ça aussi, il faut avoir à l'esprit la très grande, le caractère assez pittoresque, l'identité très marquée des différentes cités où l'on voyage. En faisant parfois des voyages assez courts en distance, on peut voyager considérablement en culture, si je puis dire. Les différences sont beaucoup, beaucoup plus marquées qu'aujourd'hui. Sur le plan artistique, c'est une période extrêmement florissante pour Van Eyck, qui est très influencée par ce séjour au Portugal. Et je vous parlais du panneau de l'adoration de l'agneau mystique. Eh bien, si vous voyez des orangers, des palmiers, des cyprès, des pins sur le panneau en question, c'est parce que, bien entendu, son voyage méditerranéen avait inspiré considérablement Van Eyck, et c'est au retour du Portugal qu'il va enrichir sa composition de ses essences pour le moins exotiques pour l'époque. Le terme d'exotisme est assez anachronique, je vous le concède. En 1430, Van Eyck va se fixer à Bruges. Il est nommé peintre de la cour. Bruges est non seulement sa ville préférée, mais je vous l'ai expliqué, c'est la grande ville extraordinaire. Cette ville qui, pour l'époque, est un peu l'équivalent terrestre de la Jérusalem céleste. C'est sans doute la période la plus intense de sa carrière artistique. Toutes les grandes œuvres célèbres de Van Eyck sont de cette époque, à commencer par les fameux époux Arnolfini, bien entendu. Ça ne l'empêche pas de continuer à voyager. Puisqu'il est au service du duc, on le voit se rendre régulièrement à Dijon, à Lille de nouveau, à plusieurs reprises. En 1435, il est envoyé à Arras pour la négociation de paix entre la Bourgogne, l'Angleterre et la France. Il effectuera une dernière fois certains voyages lointains et étranges marches en 1436 exactement. Alors, que sont les étranges marches ainsi dénommées? Ce ne sont probablement pas des terres chrétiennes. Il faut savoir qu'à l'époque, Philippe le Bon envisageait de mener une croisade. Il est possible qu'il ait envoyé, si je puis dire, en éclaireur, son peintre et néanmoins diplomate, Jan Van Eyck. Ce qui veut dire que jusqu'à un âge avancé, et alors que, encore une fois, les conditions de voyage à l'époque étaient tellement difficiles, on voit Van Eyck effectuer encore une mission très lointaine en 1436. Dans les dernières années de sa vie, il n'a plus de mission secrète. Ça ne l'empêche pas de continuer à travailler. Il faut savoir que, pour revenir à notre adoration de l'agneau mystique, c'est un polyptyque qui fait 12 panneaux de chêne, dont 8 mobiles, bien entendu, peints sur les deux faces. C'est comme les retables de la plupart, en tout cas des retables de l'époque, et qui font référence à l'évangile de Jean, dans lequel l'agneau qui répand son sang dans un calice symbolise le sacrifice du Christ. Il est au cœur de la composition. Encore une fois, j'empiète presque sur l'émission que je vous ai promise tout à l'heure et que nous essaierons de faire assez vite. Si les dernières années de la vie de Van Eyck sont relativement sédentaires, c'est peut-être tout simplement qu'il ne peut plus voyager. Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Les archives sont muettes sur le sujet et nous ne possédons aucun témoignage sur son état de santé dans les 3-4 dernières années de son existence. Mais en tout cas, le fait est qu'il reste à Bruges, où il va mourir le 9 juillet 1441. 100 ans plus tard, Du Bellay écrira « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. »